Vous entendez le cri de cette mouette ? C'est le signe que la terre ferme n'est plus très loin et que l'heure de rendre des comptes va bientôt arriver.
Nous sommes venus vous arrêter pour la mort de Cosette. Je n'aurais pu penser que vous me serviriez de la sorte. Monsieur, c'est votre faute. Vous ne vous êtes aucunement soucié du bien commun.
Dans un précédent épisode, je vous ai raconté comment, en 1741, suite au naufrage du Wager, un navire de guerre britannique, 81 rescapés avaient délibérément abandonné leur capitaine David Chipp avec ses deux derniers fidèles sur une île déserte le long de la côte sud du Chili. La situation du capitaine déchu semblait désespérée, celle des naufragés qui avaient pris la mer à peine plus enviable. Guidé par l'instigateur de la révolte, le canonnier John Bulkeley, il voulait regagner l'Angleterre en passant par le détroit de Magellan avec trois petites embarcations de fortune. Pourtant, il y aura des survivants dans les deux groupes. Ces marins qui se sont déchirés loin de tout pour survivre finiront par se retrouver. Et c'est d'une autre façon qu'ils devront s'affronter pour sauver leur peau. C'est la suite de cette histoire vraie de naufragés que je vais vous raconter. Je suis Daniel Fievet et je vous emmène dans le sillage de ces hommes que la mer a projetés en enfer et qui, après avoir fait face à l'impossible, vont devoir justifier l'impensable. Octobre 1741. Les trois petites embarcations à bord desquelles se sont entassées la plupart des rescapés du Wager s'éloignent de l'île déserte qui les a retenus prisonniers durant 5 longs mois. À mesure que les bateaux gagnent le large, la silhouette du capitaine Chipp, resté seul sur le rivage, disparaît dans les brumes glacées.
Nous étions en tout 81 hommes, 59 dans la grande barque, 12 dans la chaloupe. Et 10 dans la barge.
Assis dans cette barge de 10 places, le jeune enseigne de vaisseau John Byron prend conscience de la gravité de l'acte qu'il est en train de commettre.
J'avais toujours été dans l'obscurité quant au tour que prendrait cette affaire.
Jusqu'au dernier moment, le jeune officier de 17 ans a cru que le capitaine embarquerait comme prisonnier.
J'avais vu tous nos gens déterminés à emmener le capitaine et je m'étais embarqué dans cette persuasion. Lorsque j'appris qu'il s'était désisté de cette résolution, il n'y avait plus moyen de les quitter, car nous étions à l'ancre, à plus d'une lieue de l'île.
Byron est taraudé par le remords, mais comment faire machine arrière maintenant que les bateaux ont pris la mer ?
Affalez ! Ramenez la toile !
Après avoir parcouru 2 kilomètres seulement, un violent coup de vent déchire l'une des voiles de la longue barque transformée en arche. Bulkeley demande alors qu'une dizaine d'hommes retournent avec la petite barge chercher une toile de tente dans le campement sur l'île. Byron saisit cette chance et se porte volontaire. Sur le chemin du retour, il s'aperçoit que l'un de ses compagnons, Alexander Campbell, enseigne de vaisseau tout comme lui, partage ses remords. Tout en ramant vers l'île, les deux jeunes officiers entreprennent de convaincre les 8 autres hommes à bord. L'abandon du capitaine les conduirait immanquablement à la pendaison s'ils parvenaient à regagner l'Angleterre un jour. Byron se montre persuasif.
Mes compagnons déclarèrent qu'ils avaient, comme moi, l'intention de rejoindre le capitaine et de partager son sort.
Lorsqu'à la nuit tombée, le capitaine Chipp voit débarquer le petit groupe, il n'en croit pas ses yeux. Il peine à masquer son émotion en apprenant leur décision de rejoindre son camp. Ce rebondissement inattendu déclenche un regain d'énergie et d'optimisme chez lui et ses deux derniers fidèles restés sur l'île, le chirurgien Walter Elliott et le lieutenant des marines Thomas Hamilton. Tout redevient possible à présent. Les discussions enflammées s'éternisent dans la nuit. Ils sont désormais 13 sur le campement et disposent d'une barge en plus de l'aïeul. Ils peuvent espérer rallier à leur cause les 7 marins dissidents qui vivent depuis des mois à l'écart. Malgré l'enthousiasme général, Byron constate que les réserves de nourriture sont au plus bas. Il obtient la permission du capitaine Chipp de retourner voir le lieutenant Bynes, l'ancien second qui a pris officiellement le commandement, et Bulkeley, le véritable meneur de la révolte. Byron veut leur réclamer les rations de vivres des 10 hommes qui ne prendront finalement pas part au voyage. Il faut du courage à cet officier subalterne de 17 ans pour aller annoncer à l'imposant Bulkeley, entouré de ses 70 soutiens, son choix de rester avec le capitaine Chip.
Et j'aurais bien fait de m'en dispenser, car je n'obtins rien, ni pour moi, ni pour ceux qui avaient abandonné la troupe.
À présent, les dés sont jetés. Les deux groupes se séparent, sans savoir vers quel destin leur choix les mènera.
Cap Sud-Sud-Est !
Sous les ordres de Bulkeley, la longue barque transformée en arche pontée s'élance vaillamment vers le sud, le long de la côte chilienne, à la recherche du détroit de Magellan. L'embarcation a été baptisée le Speedwell. Malgré ce nom plein d'espoir, les conditions à bord sont épouvantables. Le petit bateau transporte dans ses cales des tonneaux d'eau douce pour un mois, des vivres et des munitions pour se défendre en cas d'attaque. 59 marins agglutinés occupent chaque centimètre carré restant. Impossible de s'allonger. Le moindre mouvement pour effectuer une manœuvre ou hisser une voile est rendu difficile par cette promiscuité extrême. Rien que faire ses besoins en se penchant par-dessus bord constitue une épreuve en soi.
La puanteur des vêtements mouillés rendait infect l'air que nous respirions, au point qu'on croirait impossible pour un homme de survivre.
Chaque nuit, les 12 hommes sur le canot qui naviguent dans le sillage du Speedwell accrochent leur embarcation en remorque et grimpent à bord du bateau pour y dormir, le surchargeant un peu plus. 71 marins sur une coque de noix, affleurant au ras de l'eau, le corps décharné et meurtri par les épreuves déjà endurées. Comment espérer affronter les mers les plus agitées de la planète dans de telles conditions ?
La plupart de nos gens à bord sont si détachés de la vie qu'il leur semble vraiment indifférent de savoir s'ils vivront ou mourront. Et ce n'est qu'au prix de maintes exhortations que l'on réussit à les convaincre de monter sur le pont, aider à leur propre sauvegarde.
On se met à la cape ! Accrochez-vous !
La mer ne laisse aucun répit à ces hommes exsangues. Les tempêtes s'enchaînent. Le canonnier Bulkeley fait preuve d'un remarquable sens de la navigation, mais 3 semaines après être parti, un drame survient. Une nuit, alors que le Speedwell a jeté l'ancre dans une crique, l'amarre qui le relie au petit canot se rompt. L'esquif part à la dérive, avec à son bord un marin qui y était resté seul pour dormir. Impuissant, Bulkeley et ses hommes voient s'éloigner leurs compagnons jusqu'à ce que le canot disparaisse à tout jamais, certainement broyé par les vagues sur les rochers. En plus d'un camarade, les naufragés viennent de perdre l'embarcation qui leur permettait de faire des allers-retours avec la terre pour se réapprovisionner. Il ne leur reste que le Speedwell, dont la longue quille ne permet pas d'accoster sans risque.
Une grande détresse s'empara des hommes. Nombre d'entre eux ayant cessé d'espérer toute délivrance.
Le désespoir est tel que 11 marins préfèrent débarquer à terre plutôt que de poursuivre le voyage dans ces conditions. Le bateau s'approche le plus près possible de la côte et les laisse gagner le rivage désertique à la nage.
Ces hommes partaient pour leur sauvegarde et pour la nôtre.
On n'entendra plus jamais parler de ces 11 marins. Le Speedwell reprend sa route vers le sud, le long de la côte chilienne. Bulkeley s'en tient au plan qu'il s'est fixé. Il veut regagner l'Atlantique en empruntant le détroit de Magellan pour atteindre une colonie portugaise au Brésil. Après avoir parcouru près de 640 km en 4 semaines, le 10 novembre 1741, les naufragés aperçoivent un petit archipel d'îles pelées. Pour Bulkeley, il n'y a pas de doute. Ces lambeaux de terre correspondent à ceux décrits dans le récit de navigation sur lequel il s'appuie pour trouver son chemin. Ces îles marquent ce qui semble être l'embouchure nord-ouest du détroit de Magellan.
Nous y sommes enfin.
Ce passage naturel de plus de 500 km qui relie le Pacifique et l'Atlantique est encore très mal connu à l'époque. Même un vieux loup de mer de la trempe de Bulkeley semble terrifié au moment de pénétrer dans ce gigantesque dédale maritime, balayé par des vents imprévisibles de la force d'un cyclone.
Jamais de ma vie, je n'ai vu de mer comme celle qui déferle dans ces contrées.
Les éléments s'acharnent sur le petit bateau surchargé. Les vagues le submergent, l'inondent et l'inclinent parfois jusqu'à le coucher sur le flanc. Mais il se redresse toujours.
Tenez bon, les gars! On va s'en sortir!
Marins et bateaux avancent ruisselants à travers les flots déchaînés. Les hommes sont affamés et réclament des rations supplémentaires. Mais Bynes et Bulkeley ne peuvent les satisfaire.
Si nous ne sommes pas excessivement prévoyants concernant la distribution de nos provisions, nous finirons tous inévitablement par mourir de faim.
Un jeune de 16 ans s'effondre.
Cette pauvre créature affamée dépérissait et mourut à l'état de squelette. Ils sont plusieurs autres dans le même état misérable qui, sans prompt secours, devront subir le même sort.
Un homme refuse de donner un peu de sa ration à un mousse de 12 ans qui, après avoir supplié qu'on lui donne à manger, meurt dans l'indifférence.
Des personnes qui n'ont pas vécu les épreuves que nous avons rencontrées se demanderont comment des êtres peuvent se montrer aussi inhumains au point de voir leurs semblables mourir de faim sous leurs yeux sans leur apporter secours. Mais la faim est exempte de toute compassion.
Les hommes sont à bout et le chemin emprunté semble mener nulle part. Le Speedwell avance dans un inextricable labyrinthe de chenaux. Le 24 novembre, 15 jours après s'être engagé dans le détroit, Bynes, le nouveau capitaine, accuse Bulkeley de s'être trompé de route. Le canonnier est pourtant sûr de son fait.
S'il existe au monde un endroit tel que le détroit de Magellan, c'est bien là que nous sommes désormais.
Mais face à la contestation grandissante, Bulkeley est contraint de rebrousser chemin. Il revient jusqu'à l'embouchure du détroit pour finalement s'apercevoir qu'ils étaient sur la bonne route. Un mois de perdu, un mois de supplice inutile durant lequel plusieurs marins succombent. Parmi la cinquantaine d'hommes encore en vie à bord du Speedwell, combien regrettent de ne pas avoir choisi de rester sur l'île avec le capitaine Chip. Nous allons voir ce que deviennent leurs anciens compagnons. Sur son île, le capitaine Chip a repris du poil de la bête. Manifestement soulagé par le départ de ses opposants qui faisaient peser sur lui une menace permanente, comme le raconte l'enseigne de vaisseau Alexander Campbell.
Il devenait à présent très alerte, allait en tous sens se procurer du bois et de l'eau, confectionner des feux, et se révéla un excellent cuisinier.
Les menus restent frugaux, des algues occasionnellement agrémentées d'un oiseau de mer, et l'on fait durer le plus longtemps possible les dernières provisions issues de l'épave. Bien que maigre, ces rations de nourriture ont permis à Chip de convaincre le groupe des dissidents de réintégrer le camp.
Notre troupe s'accrut en conséquence, au nombre de 20.
Chip n'a pas renoncé à ses ambitions. Il veut toujours, dès que possible, gagner la colonie espagnole la plus proche, située sur l'île de Chiloé, à 600 km plus au nord, pour s'emparer d'un navire marchand ennemi et reprendre le cours de sa mission militaire initiale. Première étape de ce projet aussi hasardeux que téméraire, remettre en état leurs deux petites embarcations, la barge et la yole.
Allez, au travail! Réparez la proue et colmatez toutes les voies d'eau.
Après plusieurs semaines de dur labeur, à la mi-décembre 1741, les bateaux sont prêts et les hommes là d'attendre. Cela fait 7 mois qu'ils survivent sur cette terre hostile.
Nous devînmes fort impatients de quitter l'île. Nous étions au milieu de l'été de ces climats, et en conséquence, au plus long jour. Mais il paraît que dans toutes les saisons, le temps est dans ce pays à peu près le même. Ayant eu au 15 décembre un temps assez passable, nous pressâmes le capitaine Chip d'en profiter pour traverser la baie. Il faut y aller, mon capitaine. C'est maintenant ou jamais.
Cette baie immense dont ils veulent s'échapper se nomme, je le rappelle, le Golfe des Peines. Un nom qui ne doit rien au hasard.
Attention au fond, il ne faut surtout pas s'échouer.
Une heure seulement après avoir embarqué sur leur petit bateau avec tonneaux de vivres et d'eau douce, Chip et ses hommes essuient des pluies diluviennes. Les embarcations se remplissent d'eau. Les coques s'enfoncent dans la mer à vue d'œil. Écoper ne suffit plus. Il faut alléger de toute urgence les esquifs. Les marins sont acculés. Pour ne pas sombrer, ils doivent se résoudre à jeter la quasi-totalité de leurs provisions à la mer. La nuit venue, ils se réfugient sur une plage au creux d'une anse. Sans abri, plus démunis encore qu'ils ne l'étaient sur leur île, ils tentent de s'endormir, recroquevillés les uns contre les autres.
Nous n'avons ici guère d'autres maisons que le vaste monde. Il gelait si fort que le lendemain matin, plusieurs d'entre nous étaient presque morts.
Après 9 jours à ramer contre vents et courants, les naufragés ont à peine parcouru 150 kilomètres. Exténués, ils aperçoivent le cap qui marque la fin du Golfe des Peines. L'espoir renaît. Il est de courte durée. Au niveau de ce cap, convergent des courants d'une puissance extrême. Les hommes tentent d'avancer sur une mer tourbillonnante, assaillie par de gigantesques vagues. Cette première tentative se solde par un échec. Lors d'une halte sur la côte pour reprendre des forces et chasser un phoque, la plus petite des deux embarcations, la Yole, se retourne et disparaît avec un marin dans les flots. Il n'y a pas assez de place sur la barge pour embarquer tout le monde. Il faut abandonner des hommes. 4 soldats sont désignés.
Le choix se porta sur eux, car ils étaient d'aucune utilité à bord. Ce fut une bien triste décision, mais la nécessité nous y contraignit. Nous avions le cœur serré de compassion à leur égard.
Dans un silence de plomb, les autres marins montent sur la barge et repartent à l'assaut du cap. Mais les courants se montrent intraitables.
Souquez fort, messieurs!
Impossible de dépasser ce maudit cap. Après des semaines de lutte, Chip est le seul à y croire encore. À bout de force, ces hommes n'aspirent désormais qu'à une chose, regagner leur île. La mort dans l'âme, Chip accepte de battre en retraite. Les derniers naufragés retrouvent le rivage de leur île 2 mois après l'avoir quittée. Leur expédition est un désastre. Ils ont perdu 1/3 de leur effectif, tous leurs vivres, leur yole, et par-dessus tout, ils ont perdu l'espoir de revoir un jour l'Angleterre. Ils semblent condamnés à mourir loin des leurs, sur ce morceau de terre désolé, perdu au fond du redoutable golfe des Peines. Leur situation paraît plus désespérée encore que celle de leurs anciens compagnons, engagés dans le détroit de Magellan. Après son faux départ, le Speedwell a fini par trouver son chemin. Le canonnier Bulkeley a tenu son cap vaille que vaille, dérivant lentement dans les étroits chenaux, évitant les hauts fonds, manœuvrant entre les rives brumeuses, s'abritant dans les criques à chaque coup de tabac, jusqu'à ce qu'un jour de décembre, les naufragés entrevoient enfin le bout du détroit. Il leur a fallu 31 jours pour traverser ce sinueux passage de plus de 500 kilomètres. Ils ont réussi à regagner l'océan Atlantique, mais ils ne sont pas encore tirés d'affaire.
il leur faut à présent remonter vers le nord afin d'atteindre une colonie portugaise sur la côte brésilienne. Pour y parvenir, ils doivent longer sur 2500 km le littoral de l'actuelle Argentine, qui est à l'époque sous le contrôle des Espagnols. Les marins anglais risquent à tout moment d'être surpris par une attaque et faits prisonniers par l'ennemi. Il faut pourtant manger et se ravitailler. Prudemment, le Speedwell s'approche d'un petit îlot. Sur le rivage, aucun Espagnol en vue, mais des phoques à profusion. Après avoir jeté l'ancre, non loin du rivage, les hommes affamés se jettent à l'eau, munis de leurs fusils. Ils se ruent sans retenue sur cette source de viande providentielle.
Nos gens mangèrent avec voracité.
Mais paradoxalement, cette abondance soudaine de nourriture va s'avérer fatale pour certains d'entre eux, comme l'explique le journaliste et écrivain David Grann dans son livre « Les naufragés du Wager ».
Peu après, nombre de ces hommes furent frappés de maladies. Ils souffraient très certainement de ce que l'on appelle aujourd'hui un syndrome de renutrition. Lorsqu'un individu mourant de faim, après avoir soudainement ingéré de grosses quantités de nourriture, risque d'entrer en état de choc et même de mourir. Le commissaire de bord, Thomas Harvey, périt en ayant consommé plusieurs rations de phoque. Et un autre naufragé, au moins, mourut d'avoir goûté cette viande à laquelle il croyait devoir son salut.
Les survivants reprennent leur route. Le Speedwell cingle vers le nord. Au bout de quelques jours, il faut de nouveau se réapprovisionner à terre. 8 hommes gagnent le rivage à la nage. Soudain, un violent coup de vent repousse le petit bateau vers le large. La mer est de plus en plus agitée. Une partie du gouvernail se brise.
Nous apercevons encore nos gens à terre, mais nous ne pouvons pas les y chercher.
Que faire ? Bulkeley consulte le lieutenant Bynes et l'ensemble de ses compagnons.
Tous les hommes étaient d'avis que nous devions mettre à la voile ou périr.
Mettre à la voile. Autrement dit, abandonner à leur sort leurs 8 compagnons restés sur la grève.
Au grand large et avec un riz.
Les Anglais savent que des Espagnols peuvent surgir à tout moment. Leur bateau endommagé est devenu difficile à manœuvrer. Rester serait trop dangereux. Bulkeley et ses hommes enferment dans un tonnelet quelques armes, accompagnées d'une lettre expliquant leur décision. Puis ils le jettent à l'eau et le laissent dériver jusqu'à leurs malheureux camarades. Sur le rivage, l'un des marins, nommé Isaac Morris, après avoir lu la lettre, s'effondre à genoux. Lui et ses compagnons d'infortune implorent leurs amis au loin de ne pas les abandonner sur cette côte hostile. Leurs hurlements de détresse sont recouverts par le grondement des vagues. Et déjà, le Speedwell disparaît derrière l'horizon. Le petit bateau poursuit son chemin, tel un vaisseau fantôme, peuplé d'ombres gémissantes.
Nous ne sommes pas plus de 15 en bonne santé. Si l'on peut appeler en bonne santé des gens à peine capables de ramper. Je crois être à présent l'un des hommes les plus forts sur le bateau. Et pourtant, je peux à peine tenir debout sur mes jambes 10 minutes d'affilée. Nous, qui sommes dans le meilleur état de santé, nous faisons tout ce que nous pouvons pour encourager les autres.
Chaque fois qu'un marin expire, son corps est jeté par-dessus bord. Après avoir fait preuve d'une exceptionnelle résistance, le vieux cuisinier Thomas McLean, âgé de 82 ans, succombe à son tour. Bulkeley souffre d'hallucinations. Un jour, il croit voir une nuée de papillons blancs tomber du ciel. Le 28 janvier 1742, il lui semble apercevoir au loin de grandes maisons en bois sur la côte. Cette fois, ce n'est pas un mirage. C'est le port de Rio Grande. Le Brésil, enfin. Le Speedwell vient de parcourir près de 5000 km en 3 mois et demi.
Je crois qu'aucun mortel n'a vécu plus d'épreuves et de malheurs que nous.
Dans le port, les habitants médusés voient débarquer ces hommes hirsutes et squelettiques, en haillons, la peau meurtrie par le soleil et le sel. quand ils comprennent qu'ils ont devant eux les derniers rescapés du Wager qui a sombré 8 mois plus tôt le long de la côte chilienne, c'est la stupéfaction.
Ils étaient surpris que 30 âmes, le nombre de nos gens encore en vie, aient pu s'entasser sur une aussi petite embarcation. Mais qu'elle ait pu contenir le nombre de ceux qui avaient embarqué au départ, leur parut dépasser l'entendement.
Ces survivants sont accueillis en héros. On les soigne, on les nourrit et on les loge confortablement.
Nous nous trouvons fort bien installés.
Dans une lettre qu'il envoie à un officier britannique à Rio de Janeiro pour l'informer de l'arrivée de son groupe de rescapés, Bulkeley prend soin d'indiquer que le capitaine Chip, à sa propre demande, s'est attardé. Le canonnier et tous les autres survivants savent que maintenant qu'ils sont tirés d'affaire, ils vont devoir rendre des comptes. Parmi les anciens naufragés, beaucoup n'ont pas la conscience tranquille. À commencer par les deux principaux instigateurs de la révolte, Bulkeley et son plus fidèle soutien, le charpentier Cummins, mais aussi le lieutenant Bynes, qui a accepté de prendre officiellement le rôle de capitaine après la mutinerie.
Quel est l'homme assez hardi pour entreprendre de m'ôter le commandement ? Vous, monsieur ?
Le maître d'équipage, John King, a également des choses à se reprocher. Souvenez-vous de ce violent coup de poing qu'il a gratuitement asséné au capitaine Chip alors qu'il avait les mains entravées.
Il faut être bien lâche pour maltraiter un gentilhomme prisonnier.
John King est prêt à tout pour récupérer le journal de Bulkeley dans lequel est consigné son geste indéfendable.
King s'est juré de nous obliger à lui remettre ce journal, sans quoi il nous ôtera la vie.
Le lieutenant Bynes est le premier à réussir à s'extirper de ce panier de crabes. Il quitte le Brésil et embarque pour l'Angleterre dès mars 1742. Lorsque Bulkeley et Cummins parviennent à leur tour à regagner la Grande-Bretagne, le 1er janvier 1743, ils sont immédiatement arrêtés. Leur ancien allié, le lieutenant Bynes, leur a fait porter l'entière responsabilité de la mutinerie dans la déposition qu'il a rédigée à l'attention de l'amirauté quelques mois plus tôt. Le canonnier Bulkeley dispose d'un atout pour défendre sa version de l'histoire, son journal tenu quotidiennement qu'il est parvenu à sauvegarder. À cette pièce, lui et Cummins ajoutent une note dans laquelle on peut lire ces mots.
Nous nous sommes strictement conformés au désir du malheureux capitaine Chip, dont la dernière injonction fut que soit livré un récit fidèle à vos seigneuries.
Dans son journal, Bulkeley relate l'exécution sommaire du jeune officier Henry Cousins par le capitaine Chip. Embarrassé devant ces versions contradictoires, et pour l'une d'elles accablante pour le commandant disparu, l'amirauté décide de reporter l'enquête jusqu'à ce que l'on sache, de façon certaine, ce qu'il est advenu du capitaine Chip. En attendant, Bulkeley et Cummins sont relâchés. Mais l'affaire judiciaire étant toujours en cours, la situation de Bulkeley, comme celle de tous les autres rescapés, reste très inconfortable. Ils ne peuvent percevoir leur solde pour l'expédition sur le Wager et n'ont plus le droit de servir la couronne britannique. Alors, comme l'explique David Grann, pour le canonnier Bulkeley qui s'était révolté sur l'île, débute un combat d'un autre ordre.
Il décida de se lancer dans une autre forme de rébellion, de nature littéraire. Il s'employa à faire publier son journal, il allait façonner l'opinion publique, et comme il l'avait fait sur l'île, il rallierait les gens à sa cause.
Avoir mis le capitaine à l'isolement est considéré comme un acte téméraire et sans précédent. Et le fait de ne l'avoir pas ramené avec nous est jugé plus grave encore. Mais le lecteur verra que la nécessité nous a imposé une obligation absolue d'agir comme nous l'avons fait.
Le journal de Bulkeley est publié 6 mois après son retour en Angleterre. C'est un succès d'édition. Plusieurs hauts gradés de l'amirauté s'indignent contre ce récit rédigé par un simple canonnier qui salit la réputation d'un honorable capitaine.
Comment osez-vous porter atteinte à la personne d'un gentilhomme de manière aussi publique ?
Les élites ont beau protester, Beukeley remporte la bataille de l'opinion. Le grand public se range majoritairement de son côté. Sa version de l'histoire s'imprime dans les esprits. La couronne d'Angleterre, quant à elle, aimerait que l'on tourne la page. Cette histoire de naufrage de l'un de ses navires de guerre, suivie d'une révolte de tout l'équipage contre un capitaine qui aurait abattu l'un de ses officiers, n'a vraiment rien de glorieux. Elle vient ternir un peu plus le bilan d'une guerre coloniale déjà calamiteux pour le pays. Pour camoufler ce désastre, la Grande-Bretagne préfère mettre en avant l'un de ses rares succès militaires. Le 15 juin 1744, un peu plus de 2 ans après la réapparition des naufragés, le Centurion, navire amiral de l'escadre à laquelle appartenait le Wager, est de retour. Certes, il a perdu tous les navires qui l'accompagnaient, mais il a fait le tour du monde et en chemin, il est parvenu à mettre la main sur le fabuleux trésor que transportait un galion espagnol. Le Commodore Henson, à la tête du Centurion, a accompli la principale mission qui lui avait été confiée. Il rentre victorieux au pays, les cales pleines de bijoux, d'or, d'argent et de centaines de milliers de pièces de monnaie.
Le butin des pillages coloniaux de l'Espagne était désormais entre les mains de la Grande-Bretagne.
Un butin que David Graham est parvenu à estimer.
C'était le plus vaste trésor jamais saisi par un commandant de la marine britannique. L'équivalent de près de 80 millions de dollars actuels. Henson et son équipage avaient capturé le plus grand trophée de tous les océans.
En arrivant à Londres, le Commodore Henson et ce qui reste de son équipage sont fêtés en héros. Devant une foule en liesse, ils défilent dans les rues avec dans leur sillage, sous haute protection, une trentaine de chariots chargés des richesses dérobées à l'ennemi. Ce trophée de guerre a de quoi reléguer au second plan l'embarrassante affaire du Wager. C'est en tout cas ce que les autorités espèrent. Mais c'était sans compter un retour auquel plus personne ne s'attendait. En mars 1746, soit plus de 4 ans après la réapparition du premier groupe de naufragés du Wager, un homme, le visage émacié et le regard sombre, débarque dans le port de Douvres, au sud-est de l'Angleterre. C'est le capitaine Chip. À ses côtés, le lieutenant des marines Thomas Hamilton et l'enseigne de vaisseau John Byron. Tels des spectres revenant de l'enfer pour tourmenter ceux qui leur ont fait du tort, ces 3 hommes réapparaissent, bien décidés à régler leur compte à ceux qui les ont abandonnés sans scrupule sur une île déserte. Mais comment ont-ils fait pour se sortir de la situation désespérée dans laquelle nous les avions laissés ? Rembobinons le fil de cette histoire pour revenir au moment où ils s'étaient résignés à regagner leur campement après le cuisant échec de leur expédition pour s'échapper du golfe des Pennes. Nous sommes donc au tout début de l'année 1742. Ils ne sont plus que 13 sur l'île et ont perdu tous leurs vivres. Alors que leur sort semble scellé, 2 canoës surgissent à l'horizon. À leur bord, un groupe d'autochtones. Ce sont des Chonos, un peuple de marins qui vit plus au nord que les Kaweskar que les naufragés avaient rencontrés et bêtement fait fuir quelques mois plus tôt. Cette fois, la communication est plus facile.
Nosotros, inglés. ¿Cómo se llama?
L'un des Chonos, dénommé Martin,
soy Martin,
parle espagnol, une langue que comprend le chirurgien Walter Elliott. Les Anglais implorent les Chonos de guider leur barge jusqu'à l'île de Chiloé, où se trouve la plus proche colonie espagnole. Martin et l'un de ses congénères acceptent de leur venir en aide. Le 6 mars 1742, les 13 naufragés reprennent la mer. Lors d'une des premières escales pour chercher de la nourriture sur le rivage, Chip voit 6 de ses hommes s'enfuir avec la barge.
Qu'est-ce qui pourrait pousser des scélérats à commettre un acte aussi vil ? Je ne puis l'affirmer, si ce n'est leur couardise.
Les crises d'autorité à répétition du capitaine Chip et son entêtement à vouloir s'emparer d'un navire espagnol malgré l'état de ses hommes sont sûrement la cause de cette nouvelle désertion. Chip et ses 6 derniers fidèles embarquent sur les canoës des Chonos. Les hommes sont épuisés. Après quelques jours de navigation, l'un des marins britanniques meurt. Puis c'est au tour du chirurgien, Walter Elliott, de pousser son dernier soupir. À bord des canoës, les 4 derniers naufragés, Chip, Byron, Campbell et Hamilton, rament avec l'énergie du désespoir, obéissant aux consignes des Chonos. Les autochtones leur disent quoi manger et les rabrouent lorsqu'ils cueillent malencontreusement des baies empoisonnées.
Ils se considéraient comme nos maîtres. Nous étions obligés de nous soumettre à eux en toutes choses.
Pour ces Européens partis coloniser le monde, persuadés de leur supériorité sur les peuples de ces contrées lointaines, la situation est vécue comme humiliante. Mais ces hommes, qu'ils considèrent toujours comme des sauvages, sont en train de leur sauver la vie. 3 mois après avoir quitté leur île, au terme d'une traversée dantesque, les canoës atteignent enfin le rivage de l'île de Chiloé. Les 4 Britanniques sont dans un état épouvantable. Selon Byron, le capitaine Chip est le plus mal en point.
Je ne pouvais comparer son corps à rien d'autre qu'à une fourmilière. Des milliers d'insectes rampant dessus. Il avait achevé de se perdre, ne se remémorant plus nos noms, de ceux qui étaient autour de lui, ou même le sien. Sa barbe était aussi longue que celle d'un ermite. Son corps semblait réduit à de la peau sur des os.
Le capitaine Chip, qui rêvait de s'emparer d'un navire marchand espagnol une fois arrivé sur l'île de Chiloé, est porté à moitié mort jusque dans la hutte d'un village autochtone. À peine a-t-il le temps de reprendre quelques forces qu'un groupe de soldats espagnols surgit.
J'étais à présent réduit à l'infâme nécessité de me rendre. La plus grande infortune qui pouvait arriver à un homme.
Chip, Hamilton, Campbell et Byron sont faits prisonniers. Pendant des mois et des mois, ils croupissent au fond d'une geôle sombre, infestée de puces.
Tous les jours passés ici me paraissaient une éternité.
Mais cette éternité finit par prendre fin. Après 2 années et demie de captivité, Chip et ses compagnons d'infortune sont libérés à la faveur d'un accord d'échange de prisonniers conclu entre l'Espagne et la Grande-Bretagne. Campbell, qui semble s'être rapproché des Espagnols durant sa captivité, décide de rester. Le capitaine Chip, le commandant des marines Hamilton et l'enseigne de vaisseau Byron sont, eux, rapatriés en Angleterre. Voilà comment, après toutes ces années d'absence, les 3 hommes arrivent à Londres en 1746, avec une revanche à prendre. À peine arrivés, le capitaine Chip accuse Bulkeley et ses complices de mensonges devant les hauts responsables de l'amirauté.
Que peut-on attendre de tels poltrons, après qu'ils nous eurent abandonnés de la manière la plus inhumaine et qu'ils eurent détruit à leur départ tout ce qu'ils croyaient pouvoir nous être d'une quelconque utilité? Je me flatte de considérer que ma conduite, tant avant qu'après le naufrage, apparaîtra irréprochable. Je n'ai rien à dire, ni pour ni contre ces scélérats, jusqu'au jour du procès, quand rien n'empêchera plus que ces hommes soient pendus.
Cette fois, le procès est inévitable. Tous les rescapés du Wager, officiers, sous-officiers et marins, sont sommés de se présenter devant une cour martiale. On attend du tribunal qu'il établisse les responsabilités de chacun et punisse les coupables. Bulkeley, Cummins et leur soutien risquent la pendaison pour mutinerie, mais le capitaine Chip pourrait lui aussi être condamné à mort pour le meurtre de l'enseigne de vaisseau Henry Cousins. Le 15 avril 1746, le procès s'ouvre dans une tension extrême. Le capitaine Chip est le premier à être interrogé. Contre toute attente, les questions des juges portent uniquement sur les circonstances du naufrage du Wager. À ce sujet, Chip n'a qu'une seule personne à blâmer, son ancien second, le lieutenant Robert Bynes, pour avoir omis de lui transmettre certaines observations.
Hormis votre second, accusez-vous un autre officier d'avoir été en quelque façon responsable de la perte du Wedger ?
Non, monsieur. De cela, au moins, je les absous tous.
Puis c'est au tour de John Bulkeley de répondre à la cour. Lui aussi n'a droit qu'à des questions portant sur le naufrage.
Avez-vous la moindre objection à formuler sur la conduite du capitaine ou des officiers, ou de manière générale sur ses actes relatifs au salut et à la préservation du bâtiment et de son équipage ?
Je ne peux rien ajouter à la charge de tel ou tel officier.
Pourtant, dans son journal, Bulkeley n'hésite pas à faire porter la responsabilité du naufrage du Wedger à Chip, qui s'est entêté au-delà du raisonnable dans une direction que plusieurs officiers lui déconseillaient. Alors pourquoi Bulkeley ne réitère-t-il pas ses accusations à l'encontre du capitaine ? Parce qu'il a compris qu'en se contentant d'établir les causes du naufrage, le tribunal propose une porte de sortie honorable à tous les naufragés. Une sorte de marché tacite qui pourrait se résumer ainsi. Nous n'aborderons pas ce qui s'est passé sur l'île. En contrepartie, évitez de porter les uns contre les autres de lourdes accusations. David Chip n'aura pas sa vengeance sur John Bulkeley et ses acolytes. Mais il n'aura pas non plus à rendre des comptes au sujet du meurtre de Henry Cosens.
Attendu que le capitaine Chip a fait son devoir et usé de tous les moyens en son pouvoir pour préserver le Wedger.
Tous les hommes sont acquittés, à l'exception du lieutenant Bynes, qui reçoit une simple réprimande. Le tribunal a profité d'une zone d'ombre du règlement de la Royal Navy. Une fois le bateau détruit, les marins n'ayant plus droit à leur salaire, on pouvait considérer que la loi navale ne s'appliquait plus sur l'île. Ce parti pris permet de donner l'illusion à l'opinion publique que la justice est passée, tout en évitant de ternir l'image de la Grande-Bretagne, comme l'explique David Graham.
L'amirauté avait certainement de bonnes raisons de vouloir voir cette affaire s'effacer des esprits. Exhumer et examiner l'ensemble des faits incontestables qui s'étaient produits sur l'île, les pillages, les vols, les flagellations, les meurtres, aurait fini par saper un principe fondamental par lequel l'Empire britannique tentait de justifier sa domination d'autres peuples. En l'occurrence, l'affirmation que ses forces impériales et sa civilisation étaient par nature supérieures. Et l'idée que ses officiers étaient des gentilshommes et non des brutes.
Malgré tous ses efforts en haut lieu pour étouffer l'affaire, plusieurs rebondissements et résurgences viendront raviver les mémoires. 3 mois après le procès, Isaac Morris et 2 autres marins qui avaient été abandonnés par le Speedwell sur la côte argentine réapparaissent à leur tour. Ils avaient été sauvés par des autochtones, puis faits prisonniers par les Espagnols. Isaac Morris relance l'intérêt du public en publiant sa version de l'histoire. Près d'un demi-siècle plus tard, le poète Lord Byron, qui n'est autre que le petit-fils du jeune enseigne de vaisseau John Byron, évoque dans plusieurs de ses œuvres le drame vécu par son grand-père.
L'opposé du destin de notre aïeul m'a été infligé. Il n'eut point de repos sur l'océan, ni moi sur le rivage.
Au cours des siècles suivants, cette tragédie maritime inspire plusieurs romanciers. La réalité des faits se perd peu à peu dans les brumes de la fiction. En 2023, l'écrivain et journaliste David Graham, au terme d'une méticuleuse enquête, fait ressurgir du passé cette histoire dans un livre passionnant intitulé « Les naufragés du Wedger ». Un ouvrage sur lequel je me suis appuyé pour élaborer ce récit et que je vous recommande si vous souhaitez plonger plus profondément dans les ténébreux méandres de cette histoire fascinante. Naufragé, une histoire vraie, est un podcast original de France Inter.